Vous écoutez, on lit pour vous.
Récupérer l'eau de pluie. Un texte de Stéphanie Lévesque, paru le 7 septembre 2024 dans la presse. Généralement captée du toit, l'eau de pluie est une option de récupération idéale pour l'arrosage du jardin, des fleurs ou même le nettoyage extérieur. Comment la récupérer de façon sécuritaire et efficace? Stéphanie Lévesque est entrepreneur générale. Réponse et témoignage. Que doit-on savoir avant de se lancer? Établissez ce que vous souhaitez réellement faire avec l'eau recueillie et évaluez l'espace que vous avez. Cela déterminera le type de système de récupération nécessaire. Il faut prendre le temps de choisir la zone parfaite, une surface plane, idéalement pas trop près de vos fondations. D'ailleurs, si vous n'avez pas de baril pour recueillir la pluie, on recommande d'installer des rallonges à vos gouttières pour que l'eau se déverse plus loin de votre maison. La Régie du bâtiment du Québec propose un document informatif, conçu avec la collaboration d'experts de différents milieux pour une pratique sécuritaire de la récupération de l'eau de pluie. Récupération de l'eau de pluie des bâtiments pour une utilisation ne nécessitant pas de l'eau potable. Quel modèle choisir? Les modèles modernes sont tous équipés pour une installation simple et sécuritaire. Les barils sont généralement en PVC ou en bois. Le matériau doit être résistant aux UV. Le PVC est économique et robuste. Le baril de bois offre un look rustique mais demande plus d'entretien. Des modèles offrent la possibilité d'être raccordés ensemble ou ont un dos plat pour une meilleure économie d'espace. Pour recueillir l'eau de pluie, les barils modernes ont souvent un robinet. Il est aussi possible d'avoir une petite pompe. Sinon, on peut y raccorder un tuyau alimenté par gravité, mais la pression n'est évidemment pas puissante. L'entreprise EcoTimes propose des récupérateurs d'eau de toit tout en un simple à utiliser nommé Oasis. Conçu au Québec, ce système de valorisation des précipitations d'eau pluviale est idéal pour les municipalités, les investisseurs immobiliers ou encore pour les propriétaires de multilogements qui souhaitent mettre en place une meilleure gestion des eaux pluviales. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Plusieurs personnes vont récupérer des barils ou d'autres contenants pour recueillir leur eau de pluie. Ça peut sembler simple, mais il y a des aspects à considérer, des outils à avoir à sa disposition et divers éléments à se procurer. Il faut prendre le temps de tout planifier pour ne rien oublier. Il faut absolument un grillage anti-débris en acier inoxydable à poser où l'eau se déverse. Le grillage doit être fin pour éviter que les moustiques s'installent et pondent leurs œufs. Il retient aussi les débris en tout genre. Vous devez avoir des connaissances minimales en plomberie afin d'organiser un système de récupération efficace, sécuritaire et sans perte. Dans le doute, vous pouvez faire appel à un professionnel. Quels problèmes peuvent survenir? Si l'installation est réalisée correctement, l'eau recueillie du toit va se diriger directement dans le baril avec un système d'écoulement. Mais il faut aussi penser à éviter les débordements car le baril se remplit même en cas de petite pluie. Si le baril se déverse près des fondations, chaque fois qu'il est trop plein, cela peut apporter un problème de reflux ou créer une trop grande pression hydrique dans cette zone. Il faut donc prévoir le trop-plein d'eau. Il y a deux options pour gérer le trop-plein d'eau. Un tuyau de trop-plein ou un déviateur renvoie raccordé à votre gouttière qui redirige l'eau de trop-plein vers votre descente pluviale. Il existe plusieurs types de rallonges pour vos gouttières, des rigides ou des poches qui se gonflent sous la pression et laissent passer l'eau puis qui se referment en se rétractant. Ayez une installation sécuritaire. le baril ne doit pas être instable ni se renverser et il ne faut pas l'escalader. Prévoyez un couvercle solide et, s'il le faut, attachez le baril. Témoignage. L'installation de Mélanie Perrou. La presse. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de récupérer l'eau de pluie? Mélanie Perrou. J'ai grandi dans une région de France où il y a de plus en plus de sécheresse et où l'eau est payante. J'ai appris à respecter cette ressource et à l'économiser. La ville de Laval offre des subventions pour les barils de récupération. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un coup de pouce. Mon terrain est en pente, ce qui apporte beaucoup d'eau près de ma fondation et donc des risques. À mon travail, mon champ d'expertise concerne les changements climatiques. Ce qui me motive, d'ici les 2 ou 3 prochaines années, à enlever une place de stationnement pour éviter que trop d'eau déborde dans les égouts. Les barils font aussi un peu ce travail en attendant d'avoir l'argent pour le plus gros plan. Avez-vous installé le système vous-même? Nous avons acheté 2 barils qui sont reliés. La première année, j'avais fait les 2 moi-même. Ce printemps, nous avons fait refaire les gouttières, alors j'ai demandé que ce soit pris en compte. Pour le baril du garage, on a conservé nos vieilles gouttières et on va refaire l'installation nous-mêmes pour améliorer notre système, afin qu'il y ait plus d'eau dans le baril, pour le mettre à l'ombre et diminuer la perte par évaporation. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace? L'efficacité dépend du type de baril. J'ai 2 marques différentes et elles ne sont pas équivalentes. C'est un peu plus long que d'arroser avec un boyau, mais je trouve que c'est méditatif. J'envisage de mettre 1 ou 2 barils de plus, en les reliant car, à certains moments de l'année, je les vide trop vite. Un plaisir paresseux serait d'ajouter un boyau sur ceux proches du potager. En attendant, je me dis que c'est bon pour ma tête et mon corps de prendre l'arrosoir. C'était « Récupérer l'eau de pluie », un texte de Stéphanie Lévesque paru le 7 septembre 2024 dans La Presse.
L'entrepreneuriat francophone ou féminin à Truro, un texte d'Ariane Glaise paru le 28 mai 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Le 9 mai, a eu lieu au Centre communautaire francophone de Truro une jasette pour les femmes et animée par des femmes. À cette occasion, certaines entrepreneurs de Truro ont exposé et présenté leur entreprise. L'occasion de parler d'entrepreneuriat au féminin, de ses défis et de ses opportunités. Être entrepreneur. Pour les femmes présentes, être entrepreneur signifie avoir la liberté de faire ce qu'on veut, de développer sa confiance, de croire en ses idées, puis de développer son côté artistique et créatif. À leur façon, elles indiquent que l'entrepreneuriat les remplit et les valorise. Elles ont un certain besoin de reconnaissance et de croire en leur potentiel. Quels sont les défis? Quand on ne vient pas de la région, il n'y a pas beaucoup de connexions au début, précise André-Claude Milot. Pour aller de l'avant et se faire connaître, elle suggère de se créer un réseau, de faire parler de soi par bouche à oreille. Pour être plus connectée avec les anglophones, elle a changé son nom d'entreprise. Toutes les entrepreneurs précisent qu'il est plus facile de se créer un réseau dans une petite communauté. Puis, quand la communauté aime le produit ou le service, elle va soutenir et valoriser cette entreprise. Pour Immigration francophone Nouvelle-Écosse, même si le parcours peut s'avérer difficile, les femmes qui veulent développer leur entreprise vont toujours trouver les ressources. Ce n'est pas la motivation qui manque. Le défi est la maîtrise de la langue pour les nouveaux arrivants que ce soit en français ou en anglais. Un autre défi est celui des clichés et des mentalités. Au-delà de l'envie d'entreprendre, les mentalités évoluent lentement. Selon José Cormier et Alicia Stafford, du Nouveau-Brunswick, il y a un double défi. L'aspect culturel et être une femme. Pour elles, les femmes doivent davantage faire leurs preuves pour être prises au sérieux. Elles supposent que cela dépend du secteur d'activité. Elles disent avoir de la chance dans leur couple, car le partage des responsabilités et des tâches est plus équitable et chacun peut avoir son activité professionnelle. Les opportunités en francophonie. Lucie Maude Le Breton voudrait partager, en tant que francophone du Nouveau-Brunswick, sa fierté francophone. Elle indique qu'il n'est pas toujours évident de savoir qui est francophone, vu que la plupart des personnes sont bilingues. Elle précise également que le Centre communautaire francophone de Truro fait un bon travail de promotion de la francophonie. Pour Tasha Dorion, être francophone, c'est créer de beaux liens avec les familles. Des événements comme celui-ci lui permettent de réseauter et de se faire connaître. Comme c'est un petit milieu, il y a de suite une entraide qui se met en place et les clients souhaitent soutenir l'entrepreneuriat local. Par exemple, elles disent qu'aller au marché est une vraie occasion de se faire connaître et de rencontrer ses clients. Des pistes d'amélioration pour toutes. De tous les échanges, il en ressort un besoin d'être connecté, de bénéficier de rencontres régulières avec les entrepreneurs acadiennes ou francophones pour être plus forte et solidaire et pour agrandir le réseau. Elle précise aussi que ces moments permettraient de partager des idées, des astuces et la réalité de l'entrepreneuriat. Une meilleure identification des entrepreneurs francophones a aussi été évoquée. Une aide financière pour les jeunes entrepreneurs serait appréciable, suggère Lucie Maude Le Breton. La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse veut donner, à l'avenir, une image plus efficace de l'entrepreneuriat et définir un parcours clair pour celles qui veulent entreprendre. Des pistes d'amélioration pour soi. Chaque entrepreneur a ses propres idées d'amélioration qui convergent. Elle cite qu'il est important de se connecter à soi régulièrement pour aller de l'avant, ne pas avoir de culpabilité d'être entrepreneur. Pour avancer dans le cheminement d'entrepreneur, elles expliquent qu'il faut être bien entouré et appuyé par des personnes qui croient en ses capacités. C'était l'entrepreneuriat francophone au féminin à Truro, un texte d'Ariane Glaise, paru le 28 mai 2024 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Moisson Manitoba veut un centre de transformation pour éviter le gaspillage alimentaire. Un texte de Simon Deschamps avec les informations d'Anne-Louise Michel, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Manitoba. L'organisme Moisson Manitoba envisage de créer un centre de transformation pour éviter le gaspillage alimentaire afin que la nourriture récupérée puisse nourrir des personnes dans le besoin. Une étude de faisabilité est en cours de réalisation en collaboration avec la firme MNP, indique un communiqué de presse de Moisson Manitoba publié lundi. Citation : À travers le Canada, chaque année, les Canadiens gaspillent plus de 35 millions de tonnes de nourriture. Cela provient des déchets de table, des transformateurs alimentaires, mais aussi des épiceries ou encore des agriculteurs. Fin de citation, souligne le président-directeur général de Moisson Manitoba, Vince Barletta. Citation : On veut ainsi s'assurer que cette nourriture ne se retrouve pas dans les dépotoirs, mais dans les assiettes des Manitobains. Fin de citation. L'étude de faisabilité va ainsi devoir déterminer comment il est possible de conserver, de préparer et de déshydrater des aliments pour les distribuer par la suite. Citation. Comme vous le savez, à l'automne, les jardins débordent de nourriture. On en prend, mais il y en a trop pour un moment. Par exemple, on veut niveler la montagne de patates pour être capable d'en donner toute l'année. Fin de citation, explique le président de la Banque alimentaire de l'accueil Kateri à Sainte-Anne dans le sud-est manitobain, Aurel Boisvert. L'organisme espère dévoiler les résultats de son étude de faisabilité l'an prochain. Citation, les patates se gardent assez bien, mais d'autres fruits et légumes se gardent moins bien. Il faut trouver une façon de les transformer pour qu'on puisse s'en servir toute l'année. Fin de citation, ajoute-t-il. Ainsi, ces fruits et légumes pourraient être transformés en purée ou en soupe ou tout autre produit à congeler. Moisson Manitoba dit qu'elle explore également l'idée de mettre en commun ses ressources avec les autres banques alimentaires du pays et de créer un réseau de partage. Citation. Nous discutons de la manière dont on peut aller chercher des aliments qui sont en abondance dans une partie du pays, partager ces denrées et les échanger. Dans le cas du Manitoba, nous pourrions échanger nos pommes de terre, nos carottes, nos courges pour des pommes de l'Okanagan ou pour des légumes du sud de l'Ontario. Fin de citation, explique Vince Barletta. La créativité nécessaire pour répondre aux besoins. Aurel Boisvert explique que les banques alimentaires font face à une demande croissante d'aide tout en faisant face à des difficultés financières. Il salue ce projet créatif de centre de transformation. Citation. Il y a quelques années, on achetait environ 20 % de la nourriture qu'on distribuait, 80 % de dons. Maintenant, c'est quasiment le contraire. Fin de citation, précise-t-il. Moisson Manitoba a aidé plus de 100 000 personnes chaque mois jusqu'en mars 2024, selon des données citées dans le rapport annuel de l'organisation. Elle note une augmentation de 150 % dans les demandes d'aide alimentaire à travers la province depuis 2019. Moisson Manitoba dit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs au pays. Par exemple, Moisson Montréal s'est doté d'une ligne d'assainissement bioalimentaire, citation, afin d'allonger la vie utile des fruits et légumes reçus et d'éviter le compostage une fois à l'entrepôt. Fin de citation, peut-on lire sur le site Internet de l'organisme montréalais. C'était « Moisson Manitoba veut un centre de transformation pour éviter le gaspillage alimentaire ». Un texte de Simon Deschamps avec les informations d'Anne-Louise Michel, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Manitoba.
Deux partitions pour un seul texte. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 24 avril 2024 dans le magazine Fugue. Chacun raconte l'autre. Gurshad Shaiman raconte Danny Boudreau, Danny Boudreau, Gurshad Shaiman. Mais leur récit est polyphonique, car il est construit aussi par les voix des proches, les amis, la famille de chacun des deux comédiens. Gurshad Shaiman avait présenté au Festival Transamérique, FTA, en 2018, Pourama, Pourama, qui sera d'ailleurs repris à Québec sous le titre Les forteresses, dans la foulée de Sur les traces. Un spectacle performance avec sur scène des femmes de sa famille. À Montréal, on connaît Danny Boudreau, comédien, metteur en scène, auteur. Un parcours différent de Gurshad Shaiman, mais à bien y regarder, au-delà des différences culturelles, la même démarche artistique. Entre autres, celle de bousculer les frontières, d'affirmer ce qu'ils sont, mais en allant à la rencontre de l'autre, des autres, de lever toutes les barrières qui séparent pour aller vers le partage et l'échange. Et bien évidemment parce qu'ils savent ce que c'est le rejet. Autre point commun, avancer à visage découvert sur les réalités des minorités sexuelles et de genre. Un chant à deux voix, deux histoires qui n'en font plus qu'une, peut-être quelque part l'histoire de chacun d'entre nous. On peut lire sur le site du FTA la genèse de votre spectacle. Mais comment vous êtes-vous rencontrés pour la toute première fois? Danny Boudreau. Nous nous sommes rencontrés par le biais du théâtre, bien évidemment. Nous nous sommes vus pour la première fois, je crois, en 2015 à Valenciennes. Puis nous nous sommes revus en 2018 quand Gurshad est venu présenter « Purama Purama » au FTA. Ensuite, je suis allé présenter un cours solo à Bruxelles dans un festival dans lequel Gurshad présentait lui aussi un solo. On jouait dans le même lieu et je le croisais en coulisses, lui habillé en femme pour son spectacle. Nous échangions et il y avait comme un magnétisme, une fascination l'un pour l'autre. Et c'est là que nous nous sommes dit qu'on aimerait faire quelque chose ensemble. Alors, on a commencé à se parler, et pour mieux se parler, on a décidé de partir à Sarajevo. Gurshad Shaiman. On se connaissait par le travail. J'avais bien sûr vu la pièce de Danny, mais on ne se connaissait pas plus intimement. On voulait prendre le temps de se découvrir. Et pour ce faire, on a choisi une ville que ni l'un ni l'autre ne connaissions, dont nous ne parlions pas la langue pour ne pas que l'un soit plus avantagé que l'autre. On dit souvent que ce sont par les voyages que l'on se découvre le mieux. On a pris notre temps et on s'est raconté nos vies, et c'est là qu'est né le projet, soit de partir sur les traces l'un de l'autre, mener son enquête, en somme de tenir un carnet de voyage, mais aussi de faire le portrait de l'autre. Une aventure qui se voulait au début artistique, l'idée d'une création à deux qui est devenue une aventure humaine. Chacun d'entre vous a rencontré les proches de l'autre, les a enregistrés sur la façon dont ils vous percevaient. Cela demande une confiance et un abandon qui peut être risqué. Danny Boudreau. Nous sommes tous les deux à un stade de notre vie où l'on a envie d'aller dans cette impudeur et cet abandon avec quelqu'un, de se commettre et de se mettre en danger, et tout cela dans le consentement le plus absolu. Mais dans cet exercice, c'est aussi se décentrer de notre narratif en donnant les clés à l'autre de nous raconter. Mais on sait, en racontant la vie de l'autre, on se raconte aussi. Gurshad Shaiman. Il faut rappeler que nous avons conclu un pacte. Et comme dans tout pacte, il y a une prise de risque, car on donne les clés à l'autre pour qu'il entre dans notre vie. Mais dans le contrat, il n'y a rien de ce que je dis de Danny ou de ce que Danny dit de moi qui ne soit en inéquation. Danny Boudreau. On revient aussi sur le texte de l'autre. C'est pour cela que les deux textes sont signés par nos deux noms, parce qu'ils ont été écrits à quatre mains, ce qui en fait un deux partitions pour un seul texte. De même qu'il y a un contrat avec les personnes proches de nous que l'on a eues en entrevue. Les enregistrements effectués par l'un ne sont pas communiqués à l'autre. Il y a déjà une sélection de ce que l'on garde et de ce que l'on veut montrer à l'autre. Gurshad Shaiman. Il y a quand même un exercice de vérité. On n'a pas gommé tout ce qui n'était pas plaisant, ce qui n'est pas forcément agréable à entendre pour l'autre. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a un spectacle à monter et qu'il faut regarder comment ces récits peuvent s'imbriquer. Danny Boudreau. Il y a aussi un parti pris littéraire, voire poétique, que nous voulions absolument. Ce ne sont pas des témoignages bruts de proches que l'on retrouve. Nous les avons retravaillés. Nous parlons d'un pacte entre nous deux, mais il y a aussi un pacte avec les personnes que nous avons eues en entrevue, mais aussi un pacte avec le public. Un pacte qui consiste à ce que le public soit muni d'un casque. Les deux récits se donneront en simultané. Le public pourra, grâce au casque, choisir les moments qu'il souhaite pour entendre ma partie adressée à Gurshad et la sienne adressée à moi. Il pourra peut-être aussi choisir d'écouter une seule voix. Cela veut dire qu'il faut voir le spectacle deux fois si on veut avoir les deux récits au complet? Danny Boudreau. Ou alors accepter de naviguer dans les deux versions. Gurshad Shaiman. Ce dispositif met en scène le fragment, et cela demande parfois de renoncer au texte de l'autre, partant de l'idée que la connaissance de l'autre n'est jamais exhaustive. Car même en voyant le spectacle deux fois pour écouter chaque récit, ce n'est jamais en soi une totalité, parce que dès le départ, nous avons sélectionné ce que nous voulions garder, entre autres dans les entrevues. Mais il y a aussi beaucoup de correspondances, puisqu'on fait parler les mères, les sœurs, etc., qui forment un écho et qui fait que l'on n'est absolument pas perdu dans les deux trajets racontés. Il y a eu dans votre démarche la volonté de repousser les frontières culturelles, mais aussi les frontières réelles, entre l'Iran et le Québec. Mais peut-on aussi parler de repousser les frontières de la norme et du genre? Gurshad Shaiman. La question de la norme, du genre, cela repousse les frontières, et cela fait écho à repousser les frontières des pays. Et si l'on pense à Dany et à moi, les continents entre l'Orient et l'Occident. Et notre projet a été encombré d'obstacles, puisqu'au départ, Dany devait se rendre en Iran où j'ai vécu mes 10 premières années, mais il n'a pas pu obtenir de visa. Il est allé en Turquie et s'est rendu jusqu'au barbelé qui délimite la frontière avec l'Iran. Si l'on parle de la mobilité, c'est le contraire. C'est quand on veut aller en Occident que l'on se retrouve bloqué. Et là, c'était Dany qui était bloqué. Le fait que Dany et moi revendiquions cette liberté de disposer de nos corps, de nos sentiments, et aussi chercher quelque chose qui a tout à voir avec l'amour comme sentiment, l'amour comme faire l'amour, ou encore l'amour comme amitié, c'est là encore une démarche qui cherche à faire tomber les frontières. Il y avait eu au départ, dès le départ, une grande curiosité l'un pour l'autre, mais aussi une grande curiosité pour toutes les personnes que l'on a rencontrées et qui nous ont parlé avec une grande facilité, des moments très beaux qui dépassent les questions d'orientation sexuelle ou de genre, sans les gommer d'ailleurs, ou encore de frontières culturelles. Dany Boudreau. J'ai toujours admiré le travail de Gurshad et surtout son humanité qui transpirait. Gurshad Shaiman. Je ne sais pas si c'est de la radicalité, mais j'ai toujours fait des œuvres dans lesquelles il y a une visibilité et une représentativité de la communauté LGBTQ. C'est pour moi très important de rétablir un certain équilibre, puisqu'encore aujourd'hui, dans le théâtre, il y a une très grande représentation du modèle hétéronormé. Je veux creuser ce sillon-là, de continuer à déposer encore ce petit caillou-là, à la bonne place, du bon côté du plateau de la balance. Une question de réparation, en quelque sorte. C'était « Deux partitions pour un seul texte », une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 24 avril 2024 dans le magazine Fugue.